Reprenons la lecture du Crime d'Orcival d'Émile Gaboriau. Nous nous arrêterons à la fin du 9e chapitre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel. L'entrée du père Plantat tira M. Courtois de l'état de morne stupeur dans lequel il était plongé. Il se leva et c'est en chancelant qu'il vint se jeter, ou plutôt s'abattre, entre les bras du vieux juge de paix. D'une voix déchirante, il disait « Ah, mon ami, je suis bien malheureux, oui, bien malheureux !» C'était à ne plus reconnaître l'infortuné maire tant il était changé. Non, ce n'était plus là cet heureux du monde, au visage souriant, au regard sûr de soi, dont le maintien, comme un défi jeté à tous, disait bien haut l'importance et la prospérité. En quelques heures, il avait vieilli de 20 ans. Il était brisé, foudroyé, et sa pensée éperdue flottait à la dérive au milieu d'un océan d'amertume. Il ne savait que répéter comme un mot vide de sens, « Malheureux, malheureux !» Le vieux juge de paix, cet homme si éprouvé, était bien l'ami qu'il fallait en ces crises terribles. Il avait ramené M. Courtois jusqu'au canapé, et là, assis près de lui, tenant ses mains dans les siennes, il s'efforçait de calmer cette douleur sans borne. Il rappelait à ce père infortuné que sa femme, la compagne de sa vie, lui restait pour pleurer avec lui la pauvre morte. N'avait-il pas une autre fille à aimer et à laquelle il se devait? Mais cet homme malheureux était hors d'état de rien entendre. « Ah, mon ami, gémissait-il, vous ne savez pas tout. Si elle était morte ici, au milieu de nous, entourée de nos soins, réchauffée jusqu'à son dernier soupir par notre tendresse, mon désespoir serait infini et cependant bien faible en comparaison de celui qui me tue. Si vous saviez, si vous saviez !» Le père Plantat s'était levé, comme s'il eût été épouvanté de ce qu'il allait entendre. « Mais qui pourrait dire, poursuivait monsieur le maire, où et comment elle est morte ? « Oh, ma Laurence, il ne s'est donc trouvé personne pour entendre le râle de ton agonie et te sauver. Qu'es-tu devenue, toi, si jeune, si heureuse ?» Il se redressa, effrayant de désespoir, et s'écria « Partons, Plantat, venez, allons voir la morgue !» Puis il se laissa retomber, murmurant le mot sinistre « La morgue !» Tous les témoins de cette scène déchirante restaient immobiles et muets, glacés, retenant leur souffle. Seuls, les gémissements étouffés de Madame Courtois et les sanglots de la petite servante dans le vestibule troublaient le silence. « Vous savez que je suis votre ami, » murmurait le père Plantat. « Oui, votre meilleur ami. Parlez, confiez-vous à moi, dites-moi tout. » « Eh bien donc, » commença M. Courtois, « sachez, » mais les larmes l'étouffant, il ne put continuer. Alors, tendant au père Plantat une lettre froissée et mouillée de pleurs, il lui dit « Tenez, lisez, c'est sa dernière lettre. » Le père Plantat s'approcha de la table où étaient les bougies et, non sans peine, car l'écriture était effacée en plusieurs endroits, il lut. Chers parents bien-aimés, pardonnez, pardonnez, je vous en conjure, à votre malheureuse fille la douleur dont elle va vous accabler. Hélas, j'ai été bien coupable, mais que le châtiment est terrible, ô mon Dieu! En un jour d'égarement entraîné par une passion fatale, j'ai tout oublié, l'exemple et les conseils de ma bonne et sainte mère, les devoirs les plus sacrés et votre tendresse. Je n'ai pas su, non, je n'ai pas su résister à celui qui pleurait à mes genoux en me jurant un amour éternel et qui maintenant m'abandonne. Maintenant, c'est fini, je suis perdu, déshonoré. Je suis enceinte et il me devient impossible de cacher plus longtemps l'horrible faute. Ô chers parents, ne me maudissez pas, je suis votre fille. Je ne saurais courber le front sous le mépris, je ne survivrai pas à mon honneur. Quand cette lettre vous sera remise, j'aurai cessé d'exister. J'aurai quitté la maison de ma tante et je serai allé loin. Bien loin où nul ne pourra me reconnaître. Là, je saurai finir mes misères et mon désespoir. Adieu donc, ô mes parents bien-aimés, adieu, que ne puis-je une dernière fois vous demander pardon à genoux. Ma mère chérie, mon bon père, ayez pitié d'une malheureuse égarée, pardonnez-moi, oubliez-moi, que Lucile, ma sœur, ne sache jamais. Encore adieu, j'ai du courage. L'honneur commande. À vous la dernière prière et la suprême pensée de votre pauvre Laurence. De grosses larmes roulaient silencieuses le long des joues du vieux juge de paix pendant qu'il déchiffrait cette lettre désespérée. Une rage froide, muette, terrible, pour qui le connaissait, crispait les muscles de son visage. Quand il eut achevé, il prononça d'une voix rauque ce seul mot « misérable ». Monsieur Courtois entendit cette exclamation. « Ah oui, misérable » s'écria-t-il, « misérable, ce vil séducteur qui s'est glissé dans l'ombre pour me ravir mon plus cher trésor, ma fille bien-aimée. Hélas, elle ne savait rien de la vie. » Il a murmuré à son oreille de ces paroles d'amour qui font battre le cœur de toutes les jeunes filles. Elle a eu foi en lui et maintenant il l'abandonne. Ah, si je le connaissais, si je savais. » Il s'interrompit brusquement. Une lueur de raison venait d'illuminer l'abîme de désespoir où il était tombé. Non, dit-il, on n'abandonne pas ainsi une belle et noble jeune fille. Lorsque dans son tablier elle porte une dot d'1 million, on ne l'abandonne pas, du moins sans y être contraint. L'amour passe, la cupidité reste. L'infâme suborneur n'était pas libre, il était marié. Le misérable n'est et ne peut être que le comte de Trémorel. C'est lui qui a tué ma fille. » Le silence qui persista plus lugubre lui prouva que sa pensée était celle de tous ceux qui l'entouraient. « J'étais donc, s'écria-t-il, frappé d'aveuglement, car je le recevais chez moi, cet homme, je lui tendais une main loyale, je l'appelais mon ami. Oh, n'est-ce pas? J'ai le droit à une vengeance éclatante. » Mais le souvenir du crime de Valfeuillu lui revint, et c'est avec un profond découragement qu'il reprit. Et ne pouvoir même se venger. Je ne pourrais pas le tuer de mes mains, le voir souffrir durant des heures, l'entendre demander grâce. Il est mort. Il est tombé sous les coups d'assassins moins vils que lui. Vainement le docteur et le père Plantat s'efforçaient de calmer le malheureux maire. Il continuait, s'exaltant au bruit de ses propres paroles. « Ô Laurence, ô ma chérie, pourquoi as-tu manqué de confiance? Tu as craint ma colère, comme si jamais un père pouvait cesser d'aimer sa fille. Perdu, dégradé, tombé au rang des plus viles créatures, je t'aimerais encore. » N'es-tu pas à moi? N'es-tu pas moi? Hélas, ce que tu ne savais pas, c'est que le cœur d'un père, ne pardonne pas. Il oublie. Va, tu pouvais être heureuse encore. Ton enfant, eh bien, il aurait été le mien, il aurait grandi entre nous, et j'aurais reporté sur lui ma tendresse pour toi. Ton enfant, ne serait-ce pas moi encore? Le soir, au coin du feu, je l'aurais pris sur mes genoux comme je te prenais lorsque tu étais toute petite. Il pleurait, l'attendrissement lui venait, mille souvenirs de ce temps où Laurence, enfant, jouait sur le tapis près de lui, se représentaient à sa pensée. Il lui semblait que c'était hier. « Oh, ma fille, disait-il encore, est-ce le monde qui te faisait peur, le monde méchant, hypocrite et railleur? Mais nous serions partis, j'aurais quitté Orcival, donné ma démission de maire, nous serions allés loin, nous établir, bien loin, à l'autre bout de la France, en Allemagne, en Italie, avec de l'argent. Tout est possible, tout. Non, j'ai des millions, et ma fille s'est suicidée. » Il cacha son visage entre ses mains, les sanglots l'étouffaient. Et de ne savoir ce qu'elle est devenue, reprit-il. N'est-ce pas affreux? Quelle mort aurait-elle choisie? Ô ma fille, toi, si belle, vous souvenez-vous, docteur, et vous, Planta, de ces beaux cheveux bouclés autour de son front si pur, de ses grands yeux tremblants, de ses longs cils recourbés? Son sourire, voyez-vous, c'était le rayon de soleil de ma vie. J'aimais tant sa voix et sa bouche si fraîche, qui me donnait sur les joues de bons gros baisers sonores. Morte, perdue, et ne savoir ce qu'est devenu ce corps souple et charmant, se dire qu'il gît peut-être abandonné dans les vases de quelque rivière. Rappelez-vous le cadavre de la comtesse de Trémorel ce matin? C'est là ce qui me tue. Oh mon Dieu, ma fille, que je la revoie une heure, une minute, que je puisse déposer sur ses lèvres froides un dernier baiser. Était-ce là le même homme qui, tout à l'heure, du haut du perron de Valfeuillu, débitait ses phrases banales au badaud de la commune? Oui, mais la passion est le niveau égalitaire qui efface toutes les distinctions de l'esprit et de l'intelligence. Le désespoir de l'homme de génie ne s'exprime pas autrement que le désespoir d'un imbécile. Depuis un moment déjà, M. Lecoq faisait les plus sincères efforts pour empêcher de tomber une larme chaude qui roulait dans ses yeux. M. Lecoq est stoïque, par principe et par profession. Sur ces paroles désolées, sur ce vœu d'un père au désespoir, il n'y tint plus. Oubliant qu'on allait s'apercevoir dans son émotion, il sortit de l'ombre où il s'était tenu et s'adressant à M. Courtois. « Moi, dit-il, moi, M. Lecoq de la Sûreté, je vous donne ma parole d'honneur de retrouver le corps de Mademoiselle Laurence. » Le pauvre maire s'accrocha désespérément à cette promesse comme un noyé au brin d'herbe qui flotte à portée de sa main. « Oui, n'est-ce pas, dit-il, nous le retrouverons. Vous m'aiderez. On dit que rien n'est impossible à la police, qu'elle sait tout, qu'elle voit tout. Nous saurons ce qu'est devenue ma fille. » Il s'avança vers l'homme de la préfecture, lui prenant les mains. « Merci, ajouta-t-il, vous êtes un brave homme. Je vous ai mal reçu tantôt et jugé du haut de mon sot orgueil. Pardonnez-moi. Il est des préjugés stupides. Je vous ai accueilli dédaigneusement, moi qui ne savais quelle fête faire à ce misérable comte de Trémorel. Merci encore. Nous réussirons, vous verrez. Nous nous ferons aider, nous mettrons sur pied toute la police, nous fouillerons la France. Il faut de l'argent, j'ai des millions, prenez-les. » Ses forces étaient à bout. Il chancela et retomba épuisé sur le canapé. « Il ne faut pas qu'il reste ici plus longtemps, » murmura le docteur Gendron à l'oreille du père Planta. « Il faut qu'il se couche. Une fièvre cérébrale, après de pareils ébranlements, ne me surprendrait pas. » Le juge de paix aussitôt s'approcha de Madame Courtois, toujours affaissée sur le fauteuil. Abîmée dans sa douleur, elle semblait n'avoir rien vu, rien entendu. « Madame !» lui dit-il. « Madame !» Elle tressaillit et se leva à l'air égaré. « Oh, c'est ma faute, disait-elle, ma très grande faute. Une mère doit lire dans le cœur de sa fille, comme dans un livre. Je n'ai pas su deviner le secret de Laurence. Je suis une mauvaise mère. » Le docteur, à son tour, s'était avancé. « Madame, prononça-t-il d'un ton impérieux, il faut engager votre mari à se coucher sans tarder. Son état est grave et un peu de sommeil est absolument nécessaire. Je vous ferai préparer une potion. » « Ah, mon Dieu !» s'écria la pauvre femme en se tordant les mains. « Ah, mon Dieu !» et la crainte d'un nouveau malheur aussi épouvantable que le premier, lui rendant quelque présence d'esprit, elle appela les domestiques qui aidèrent M. Courtois à regagner sa chambre. Elle monta aussi, suivie du docteur Gendron.
Trois personnes seulement restaient au salon. Le juge de paix, M. Lecoq, et toujours près de la porte, Rebelot le rebouteux. « Pauvre Laurence, murmura le vieux juge de paix, malheureuse jeune fille. » « Il me semble, remarqua l'agent de la sûreté, que c'est son père surtout qui est à plaindre. À son âge, un pareil coup, il est capable de ne s'en pas relever. Quoi qu'il puisse arriver, sa vie est brisée. » Lui aussi, l'homme de la police, il avait été ému, et s'il le dissimulait autant que possible, on a son amour-propre, il l'avait formellement avoué au portrait de la bonbonnière. J'avais, reprit le juge de paix, j'ai eu comme le pressentiment du malheur qui arrive aujourd'hui. J'avais, moi, deviné le secret de Laurence, malheureusement, je l'ai deviné trop tard. Et vous n'avez pas essayé? Quoi? En ces circonstances délicates? Lorsque l'honneur d'une famille respectable dépend d'un mot, il faut une circonspection extrême. Que pouvais-je faire? Avertir Courtois? Non, évidemment, il eût d'ailleurs refusé de me croire. Il est un de ces hommes qui ne veulent rien entendre et que le fait brutal peut seul désabuser. On pouvait agir près du comte de Trémorel. Le comte aurait tout nié. Il m'aurait demandé de quel droit je me mêlais de ses affaires. Une démarche aboutissait simplement à ma brouille avec Courtois. Mais la jeune fille, le père Plantat poussa un gros soupir. Bien que je déteste, répondit-il, me le mêler de ce qui, en somme, ne me regarde pas, un jour j'ai essayé de lui parler. M'armant de précautions, infinie, avec une délicatesse toute maternelle, je puis le dire, sans lui donner à entendre que je savais tout, j'ai tenté de lui montrer l'abîme où elle courait. Et qu'a-t-elle répondu? Rien, elle a ri, elle a plaisanté, comme savent plaisanter et rire les femmes qui ont un secret à cacher. Et depuis, il m'a été impossible de me trouver seule un quart d'heure avec elle. Et avant cette imprudence de ma part, car parler fut une imprudence, il fallait agir. J'étais son meilleur ami. Il ne se passait pas de journée qu'elle ne vînt mettre ma serre au pillage. Je lui laissais dévaster mes pétunias les plus rares. Moi qui ne donnerais pas une fleur au pape. Elle m'avait, d'autorité, constitué son fleuriste ordinaire. C'est pour elle que j'ai réuni ma collection de bruyères du Cap. J'ai été chargé de l'entretien de ses jardinières. Son expansion était à ce point attendrie que M. Lecoq, qui le guettait à la dérobée, ne put retenir une grimace narquoise. Le juge de paix allait continuer, lorsque, s'étant retourné à un bruit qui se fit dans le vestibule, il s'aperçut pour la première fois de la présence de Rebelot le rebouteux. Sa figure aussitôt exprima le plus vif mécontentement. « Vous étiez là, vous » dit-il. Le rebouteux eut un sourire bassement obséquieux. « Oui, monsieur le juge de paix, bien à votre service. »« C'est-à-dire que vous nous écoutiez ?»« Oh, pour ça, non, monsieur le juge de paix. J'attends madame Courtois pour savoir si elle n'a rien à me commander. Une réflexion soudaine traversa le cerveau du père Plantin. L'expression de son œil changea. Il fit un signe à monsieur Lecoq comme pour lui recommander l'attention et s'adressant au rebouteux d'une voix plus douce, « Approchez donc, maître Rebelot, dit-il. » D'un regard, monsieur Lecoq avait toisé et évalué l'homme. Le rebouteux d'Orcival était un petit homme chétif d'apparence, d'une force herculéenne en réalité. Ses cheveux coupés en brosse découvraient son front large et intelligent. Ses yeux clairs étaient de ceux où flambe le feu de toutes les convoitises, et ils exprimaient, quand il oubliait de les surveiller, une audace cynique. Un sourire bas errait toujours sur ses lèvres plates et minces, que n'ombrageait pas un seul poil de barbe. D'un peu loin, avec sa taille exiguë et sa face imberbe, il ressemblait à ces odieux gamins de Paris, qui sont comme l'essence même de toutes les corruptions, dont l'imagination est plus souillée que le ruisseau où ils cherchent les sous perdus entre les pavés. À l'invitation du juge de paix, le rebouteux fit quelques pas dans le salon, souriant et saluant. « Monsieur le juge de paix, disait-il, aurait-il par hasard et par bonheur besoin de moi ?»« Nullement, maître Rebelot, en aucune façon. Je veux seulement vous féliciter d'être arrivé si à propos pour saigner monsieur Courtois. Votre coup de lancette lui a peut-être sauvé la vie. » « C'est bien possible, tout de même, » répondit le rebouteux. « Monsieur Courtois est généreux. Il reconnaîtra bien ce service qui est grand. « Oh, je ne lui demanderai rien. Je n'ai, Dieu merci, besoin de personne. Qu'on me paye seulement mon dû et je suis content. « Oui, je sais, on me l'a dit, vos affaires vont bien. Vous devez être satisfait. » La parole de monsieur Plantin était devenue amicale, presque paternelle. Il s'intéressait fort, on le voyait, à la prospérité de maître Rebelot. Satisfait, reprit le rebouteux, pas tant que monsieur le juge de paix le croit. La vie est bien chère pour le pauvre monde, puis il y a ces rentrées, ces maudites rentrées qui ne se font pas. Cependant, c'est bien vous qui avez acheté le Prémorin au bas de la côte d'Evry. Oui, monsieur. Il est bon, le Prémorin, bien qu'un peu humide. Heureusement, vous avez de la pirail dans les pièces de terre que vous a vendues la veuve Frappelle. Jamais le rebouteux n'avait vu le juge de paix si causeur, si bon enfant, et il ne se lassait pas que d'être un peu surpris. « Trois méchantes pièces de terre, fit-il. Pas si mauvaise que vous dites. Puis, n'avez-vous pas aussi acheté quelque chose à la licitation des mineurs Perron ? Un lopin de rien du tout. C'est vrai, mais payé comptant. Vous voyez bien que le métier de médecin sans diplôme n'est pas si mauvais. » Poursuivi plusieurs fois déjà pour exercice illégal de la médecine, maître Rebelot crut devoir protester. « Si je guéris les gens, affirma-t-il, je ne me fais pas payer. C'est donc, continua le père Plantin, votre commerce d'herboristerie qui vous enrichit ?» Décidément, la conversation tournait à l'interrogatoire. Le rebouteux devenait inquiet. « Je gagne passablement avec les herbes, » répondit-il. « Et comme vous êtes un homme d'ordre et d'économie, vous achetez des terres. »« J'ai encore les bêtes, » reprit vivement Rebelot, « qui me rapportent assez. On vient me chercher de plus de 3 lieues. Je soigne les chevaux, les vaches, les brebis. Toujours sans diplôme. » Le rebouteux prit un air dédaigneux. « Ce n'est pas un morceau de parchemin, » dit-il, « qui fait la science. Je ne crains pas les vétérinaires de l'école, moi. » C'est dans les prairies et à l'étable que j'étudie les bestiaux. Sans me vanter, je n'ai pas mon pareil pour l'anfle, non plus que pour le tournis ou la clavelée. Le ton du juge de paix devenait de plus en plus bienveillant. Je sais, poursuivit-il, que vous êtes un homme habile et plein d'expérience. Et tenez, le docteur Gendron, chez qui vous avez servi, me vantait, il n'y a qu'un instant, votre intelligence. Le rebouteux eut un tressaillement nerveux, qui, pour être très léger, n'échappa point au père Plantin, qui continua. « Oui, ce cher docteur m'affirmait n'avoir jamais rencontré un aide de laboratoire aussi entendu que vous. Rebelot, me disait-il, a pour la chimie une telle aptitude et tant de goût en même temps qu'il s'entend aussi bien que moi à quantité de manipulations extrêmement difficiles. Dame, je travaillais de mon mieux puisque j'étais bien payé. » Et j'ai toujours aimé à m'instruire. Et vous étiez à bonne école chez Monsieur Gendron, maître Rebelot. Il se livre à des recherches très intéressantes. Ses travaux et ses expériences sur les poisons sont surtout bien remarquables. L'inquiétude qui peu à peu gagnait le rebouteux commençait à devenir manifeste. Son regard vacillait. Oui, répondit-il, pour répondre à quelque chose. J'ai vu des expériences bien curieuses. Eh bien, dit le père Plantin, vous qui aimez à vous instruire et qui êtes curieux, réjouissez-vous. Le docteur va ces jours-ci avoir un beau sujet d'étude et certainement il vous prendra pour aide. Maître Rebelot était bien trop fin pour n'avoir pas deviné depuis quelques minutes déjà que cette conversation, cet interrogatoire plutôt, avait un but. Mais lequel ? Où en voulait venir le juge de paix ? Il se le demandait, non sans une sorte de terreur irraisonnée. Et, récapitulant avec la foudroyante rapidité de la pensée, à combien de questions, oiseuses en apparence, il avait répondu, et où l'avaient conduit ces questions, il tremblait. Il crut être habile et esquivait d'autres demandes en disant « Je suis toujours aux ordres de mon ancien maître quand il a besoin de moi. » « Il aura besoin de vous, je vous l'affirme, » prononça le père Plantin. Et d'un ton détaché qui démentait le regard de plomb qu'il fit peser sur le rebouteux d'Orcival, il ajouta « L'intérêt sera énorme et la tâche difficile. On va, mon brave, exhumer le cadavre de Monsieur Sauvresy. » Rebelot était assurément préparé à quelque chose de terrible et il était armé de toute son audace. Cependant, ce nom de Sauvresy tomba sur sa tête comme un coup de massue. Et c'est d'une voix étranglée qu'il balbutia « Sauvresy !» Le père Plantin, qui ne voulait pas voir, avait déjà détourné la tête et continuait de ce ton qu'on prend en parlant de choses indifférentes, de la pluie et du beau temps. « Oui, on exhumera Sauvresy. On soupçonne. La justice a toujours des soupçons. Qui n'est pas mort d'une maladie parfaitement naturelle ?» Le rebouteux s'appuyait à la muraille pour ne pas tomber. « Alors, poursuivit le juge de paix, on s'est adressé au docteur Gendron. Il a, vous le savez, trouvé des réactifs qui décèlent la présence d'un alcaloïde, quel qu'il soit, dans les matières soumises à son analyse. Il m'a parlé d'un certain papier sensibilisé. » Faisant un héroïque appel à toute son énergie, Rebelot s'efforçait de se relever sous le coup et de reprendre contenance. « Je connais, dit-il, les procédés du docteur Gendron, mais je ne vois pas sur qui peuvent porter les soupçons dont parle monsieur le juge de paix. » Le père Plantin était désormais fixé. « On a, je pense, mieux que des soupçons, répondit-il. Madame de Trémorel, vous savez, a été assassinée. On a dû inventorier ses papiers et on a retrouvé des lettres, une déclaration des plus accablantes, des reçus, que sais-je. » Rebelot, lui aussi, savait à quoi s'en tenir. Cependant, il eut encore la force de dire « Basse, il faut espérer que la justice fait erreur. » Puis, telle était la puissance de cet homme que, malgré le tremblement nerveux qui secouait tout son corps comme le vent agite les feuilles du tremble, il ajouta, contraignant ses lèvres minces à dessiner un sourire, « Madame Courtois ne descend pas, on m'attend chez moi. Je reviendrai demain. Bonsoir, monsieur le juge de paix et la compagnie. » Il sortit, et bientôt on entendit le sable de la cour crisser sous ses pas. Il allait, trébuchant, comme un homme qui a bu.
Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Grand Ciel.